Bonne journée sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
On la reconnaît à sa jolie robe, avec ou sans faux col. Elle est blanche, elle est blonde, un peu rousse ou franchement brune. Elle n'a pas son pareil pour faire tourner la tête des hommes.
RTL.
Cette élégante, c'est la bière.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
On est bien entre curieux sur RTL.
Sur Jacques Brel qui chante La bière en 1968, eh bien, on vous annonce que c'est le mondial de la bière. Paris 2018, c'est à la fin du mois. Alors l'actualité plus l'envie d'une petite mousse, plein de questions nous sont venues.
Plus la Coupe du Monde de foot,
oui, ça fait beaucoup de choses.
Qui fait monter la consommation.
Évidemment, à consommer avec modération, sauf nos questions à Elisabeth Pierre. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes experte bière indépendante, zytologue. Il y a de la bière dans zytologue, dans l'étymologie?
Oui, en tout cas, il y a de l'orge, puisque zytos, ça veut dire orge, ouais, en grec. Et c'est ce mot, j'aime beaucoup ce mot, parce que ce mot évoque déjà l'ancrage ancien de la bière, hein, justement dans l'Antiquité. Et puis j'aime aussi ce mot parce qu'il transmet la notion de la connaissance et de la science de la bière, aussi bien dans sa fabrication que dans sa dégustation. Donc il y a aussi toute une dimension de sommelier bière dans le mot zytologue.
Et donc on va l'employer avec plaisir, ce mot zytologue. Elisabeth Pierre, c'est le mondial de la bière à la fin du mois, mm-hmm. Ça veut dire que chaque pays vient présenter ses bières, il y a plein de bières, il y a des nationalités de bières, c'est ça?
Tout à fait, il y a en fait dans un même lieu sur 3 jours, on peut trouver un choix absolument gigantesque. C'est le principe, c'est l'âme en fait du mondial de la bière qui est né à Montréal, c'est le fait de proposer au plus grand nombre le plus grand choix possible de bières sur un même lieu. Donc il y a effectivement énormément de pays, dont bien sûr la France qui est présente.
Et moi j'ai l'impression que dans chaque pays, quand on a la chance de voyager, on va trouver la bière locale, mais même maintenant dans chaque ville ou dans chaque quartier, quoi. Il y a un développement du nombre de propositions de bière qui est impressionnant. C'est pas seulement une impression, c'est une réalité.
C'est une réalité. C'est un phénomène vraiment époustouflant en France d'ailleurs. On est regardé un petit peu avec beaucoup de curiosité, c'est le cas de le dire, mm-hmm, par tous les autres pays traditionnellement brassicoles, parce qu'on est un pays où il y a la plus grande progression de nombre de brasseries et de bières.
Mais ça veut dire qu'on est une patrie de brasseurs, mm-hmm, pas facile à dire, essayez chez vous, et on est des grands consommateurs de bières aussi.
Alors oui, bien sûr, nous sommes redevenus, en fait la France est redevenue en quelque sorte une patrie de brasseurs, ce qu'elle était au début du XXe siècle. Il y avait 4000 brasseurs. Puis dans les années 80, il y en avait 40. Donc il y a eu vraiment une sorte de désertification brassicole, on va dire ça comme ça. Et puis depuis les années 80, on est rendu aujourd'hui à 1300 brasseries. Ah oui. Donc 1300 brasseries, ça porte un petit peu le rythme de création de brasseries.
Mais pourquoi, hein, c'est la mode comme ça, la bière
par jour? Alors la mode, elle est en fait liée à essentiellement un retour à des valeurs, à une recherche, à une curiosité de rencontre de producteurs de proximité, de circuits courts, de production locale, l'envie d'aller chercher qui est derrière cette bière, parce que derrière chaque bière il y a une histoire, mais il y a aussi un homme et une femme. Donc ça vient de là, c'est plus qu'une mode, c'est une tendance très profonde qui existe d'ailleurs dans tous les pays du monde.
Elisabeth Pierre, on redevient un pays de brasseurs, si j'ai compris, mais est-ce qu'on est forcément un pays de gros consommateurs de bière? On est bien classé, si j'ose dire?
Vous avez tout à fait raison, on n'est pas du tout bien classé, on n'est pas du tout bien des gros consommateurs, nous sommes même bon dernier avec les Italiens.
En Europe.
Et alors du coup en Europe, les plus gros consommateurs de bière, ce sont les Tchèque avec 143 litres par an et par habitant. Hein, donc
j'aurais mis un billet sur les Allemands, moi.
Voilà, et juste après les Allemands, bien sûr, avec 107 litres.
Et nous, on en consomme combien?
Nous avons fait d'énormes progrès ces 5 dernières années, puisque nous sommes remontés, si je puis dire, dans le classement avec 33 litres. Et nous sommes ex aequo avec les Italiens, à peu près en nombre de brasseries et en consommation de bière. On est tout à fait voisins.
Bon, et même s'il n'y a pas beaucoup d'alcool dans la bière, on va quand même rappeler le message de modération, comme d'habitude quand on parle d'alcool.
Elisabeth Pierre, vous savez, nous adorons poser des questions simples, évidentes, mais qu'il faut poser avec des réponses toujours passionnantes. Ça vous met un peu la pression. La bière, c'est quoi?
J'ai envie de dire, c'est une infusion de céréales qui a fermenté avec des levures.
C'est une tisane de céréales.
Voilà. Alors, je vais quand même ajouter le fait que dans l'étape de processus, c'est très simple. C'est effectivement une sorte de bouillie de céréales, hein, qu'on va chauffer donc et qu'on va filtrer pour obtenir une sorte de tisane, ce qu'on va appeler le mou. Et ce mou, on va le mettre à ébullition. Et pendant l'ébullition, on va ajouter des houblons, nos fameux houblons dont on va reparler. Et ensuite, on fait fermenter la chose de façon naturelle depuis la nuit des temps et puis de façon, on va dire, on sait ce qu'on fait depuis Pasteur. Hein. Donc jusqu'à maintenant, c'était très... c'était très mystérieux. Les levures, on ne connaissait pas. Hein. Le microscope n'existait pas. Et donc, on ne savait pas du tout ce qui se passait. C'était totalement empirique et ça fait finalement très peu de temps qu'on sait réellement ce qui se passe. Et ces fameuses petites levures, qui sont les mêmes que celles du pain et du vin d'ailleurs, donc ces levures font le travail, c'est-à-dire vont tout simplement manger les sucres qui sont apportés par les céréales et les transformer en alcool et en gaz carbonique.
Elisabeth Pierre, est-ce que l'eau, la qualité de l'eau est importante pour que la bière soit bonne ?
Tout à fait. C'est d'ailleurs l'eau, la composition de l'eau qui explique la naissance des styles traditionnels dans les différents pays. Vous connaissez tous les différences de goût entre les différentes eaux minérales.
Hein. Ben oui.
Donc c'est la même chose pour la bière. Les brasseurs, jusqu'à encore récemment, utilisaient tout simplement l'eau qu'ils avaient à disposition. Donc elle était selon le climat, le sol, le terroir, elle était calcaire ou pas du tout. Et c'est comme ça qu'on a l'apparition par exemple de la Pils avec une eau très douce, les bières noires avec des eaux plus bicarbonatées, etc.
Choisir et acheter sa bière en 7 secondes, c'est le titre du livre que vous publiez chez Hachette. C'est un défi que vous relèverez, Elisabeth Pierre, je vous préviens, dans quelques instants. Mais avant, on va découvrir avec vous que les premiers brasseurs étaient des femmes et que ça a duré pendant des siècles, voire même quelques millénaires. A tout de suite sur RTL.
Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif.
La musique sur RTL, c'est ça.
RTL vous joue les tubes d'aujourd'hui, mais aussi les plus grands classiques.
Toute la journée, vos artistes préférés sont sur la première radio de France.
On aime la musique sur RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
On goûte au secret de la bière avec la zytologue Elisabeth Pierre. On a appris ce mot grâce à vous, zytologue. Ça veut dire connaissance de l'orge, en quelque sorte.
Tout à fait, c'est l'orge étant la base de la bière. Hein, tout à fait. Donc on est en fait sur un prolongement de l'orge qui est la bière.
Mais ce n'est pas la seule céréale qu'on peut utiliser pour faire
de
la bière.
On peut utiliser toutes les céréales qui existent sur la planète. Et d'ailleurs, chaque continent a sa dominante de céréales. Hein. En Asie, c'est plutôt le riz. En Amérique du Sud, c'est plutôt le maïs. En Afrique, sur le continent africain, c'est vraiment le sorgho, le mil et le millet. Et sur l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, on est plutôt sur la dominante de l'orge, justement.
Alors, il y a les couleurs de bière, évidemment. Oui. La bière blonde, brune, ambrée, ça vient d'où ?
C'est des
colorants qu'on rajoute ? C'est les céréales ? C'est quoi ?
Ça vient des céréales maltées. Alors, c'est quoi les céréales maltées ? C'est tout simplement une céréale, quelle qu'elle soit, donc l'orge, le seigle, le blé, le millet, etc., qui est germée, séché, et dans sa phase de séchage, je vais y arriver, la température est plus ou moins intense, hein, comme un petit peu un rôti ou un pain que vous faites griller. Ouais. Donc légèrement grillé, le malté pâle, dont les couleurs blondes. D'accord. Le malté légèrement grillé va être caramélisé, va donner un goût déjà beaucoup plus caramélisé. On dit souvent qu'il y a un goût fruit sec et noisette dans les bières ambrées, mais c'est vrai parce que ça vient de cette réaction de Maillard, donc ce côté très caramélisé. Et puis plus on va partir en intensité sur le maltage, on arrive à des maltés brun, ce qu'on appelle des maltes torréfiés, et on les utilise pour les bières brunes et les bières noires. Donc la couleur des bières, c'est en fait la prise en compte uniquement des maltes. Donc c'est relativement réducteur pour caractériser une bière, et c'est pour ça que je parle plutôt des goûts que des couleurs.
Elisabeth Pierre, est-ce qu'on sait quand la toute première bière a été brassée et bue, et dans quelle région c'était ?
Alors, les premières céréales sont apparues en fait dans le croissant fertile, sur les bords de la Méditerranée, très peu de temps après dans d'autres continents. La bière la plus ancienne, vraisemblablement, on ne saura jamais le goût qu'elle aura, même s'il y a une archéologie scientifique maintenant qui est très très poussée, et notamment des découvertes sur notamment cette fameuse bière que nous, dans notre région, en Gaule, auparavant, on appelait la cervoise. Donc on sait quasiment, on est de façon certaine que la cervoise était une bière, donc même si ça ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là, avec de l'orge, du blé et de l'épeautre.
Mais quand vous dites le croissant fertile, c'est quoi ? C'est la Mésopotamie, c'est-à-dire
voilà,
c'est à peu près
la
l'Irak, la Syrie d'aujourd'hui,
c'est maintenant
c'est ça ?
L'Irak et la Syrie tout à fait aujourd'hui, absolument. C'est là que les céréales sont apparues,
d'accord.
C'est là que les hommes ont commencé à se sédentariser et d'une certaine manière à cultiver les céréales, à élever leurs troupeaux, et c'est d'ailleurs la naissance en même temps du fromage, du coup, puisque la bière comme le fromage sont des produits qui sont finalement arrivés de façon empirique et liés à la conservation de l'aliment.
Alors ce qui est fascinant, c'est la fabrication de la bière. On parle de brasseur et pourtant il faut parler de brasseuse. Pour quelle raison, Elisabeth Pierre ?
Parce que de tout temps, ce sont les brasseuses qui ont brassé. Les hommes, à l'époque dont on parle là, c'est les hommes allaient à la chasse, à la pêche, et les femmes brassaient. Les femmes faisaient donc le pain, et c'est à partir du pain qu'elles émiettaient dans de l'eau pour faire de la bière. Il y a plusieurs techniques ancestrales hein, qui ont bien sûr été découvertes, mais on sait de façon certaine que c'était la base de la bière.
C'est ça, durait
le pain liquide et le pain solide.
On l'appelait le pain liquide.
Le pain liquide, c'est pour ça.
Et jusqu'à quelle époque les femmes ont brassé la bière ?
Alors elles n'ont jamais arrêté, elles brassent toujours. Elles ont certainement laissé un peu de place.
Oui.
Voilà, majoritairement, donc jusqu'au, on va dire, jusqu'à la naissance des corporations. Les moines
au Moyen Âge,
un grand, on va dire, rôle du fait de leur niveau de connaissance, mais aussi du fait que c'était un monopole, une source de taxes. Mais les femmes ont toujours brassé à domicile. Et aujourd'hui, on a un retour des femmes brasseuses, et notamment des brasseuses. Je milite beaucoup pour les femmes qui brassent, et on va brasser d'ailleurs au travers d'un club qui s'appelle le Club Bierissima, des bières Bierissima, donc avec des bouteilles que j'ai apportées là, d'Anne-Catherine, d'Anne-Laure.
Ah, donc vous recrutez des femmes brasseuses.
Voilà, voilà, qui sont très dynamiques et qui font un très très beau travail aujourd'hui.
Et est-ce que leur talent fait partie de leur dot, comme au Moyen-Âge ? Parce qu'il paraît que c'était dans la dot des jeunes femmes, le talent de
Tout brasseuse,
c'est ça ?
La dot était effectivement constituée des outils de brassage. Bon, c'est plus le cas maintenant, bien sûr, mais ça montre à quel point la fonction de brassage était importante.
Vous publiez, Elisabeth Pierre, Choisir et acheter sa bière en 7 secondes, c'est aux éditions Hachette.
On va
alors, on est prêt.
Bon.
Ça y est, on est prêt à suivre vos conseils pour bien la choisir. Vite fait, bien fait. À toutes les curieuses sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La bière brassée il y a 10 000 ans en Chine et puis aussi au Proche-Orient, la bière qui a une histoire passionnante et qu'on vous raconte avec la zytologue, c'est le nom du métier. Elisabeth Pierre, vous êtes spécialiste dans l'orge qui est notamment la céréale qui peut composer cette bière qu'on boit et qu'on apprécie en France, même si on n'est pas les premiers sur le podium, enfin on n'est pas obligé de s'arsouiller non plus, on peut juste l'apprécier, il n'y a pas de souci. Vous publiez ce livre, Choisir sa bière en 7 secondes, mais déjà, pourquoi cet impératif temporel, 7 secondes ? Et peut-on vraiment la choisir en 7 secondes grâce à vous ?
C'est quoi ce défi ?
Ce défi, c'est en fait un clin d'œil, bien sûr, puisqu'on est sur un paysage tellement foisonnant, une effervescence tellement incroyable, un mouvement de fond, de création de brasserie partout. Sur une brasserie à peu près par jour, si on part du principe qu'il y a pour chaque brasserie environ 8 bières minimum dans la gamme, mettons sur l'année, ce qui est vraiment un minimum, on arrive à plus de 10 000 bières sur la France. Et au-delà de ce nombre, on est sur un foisonnement de styles. Alors un style, c'est tout simplement une dimension de goût dominante. Le houblonnage, par exemple, le côté maltais, le côté acide, le côté fumé. Donc on va avoir des bières qui ont des goûts extrêmement différents
et là,
des styles très différents.
Ouais, vous nous avez apporté plein de bières différentes.
Oui.
On diffuse la photo sur nos réseaux sociaux. Elles ont des goûts très variés, très différents. C'est un petit échantillon,
oui,
c'est
oui,
ça ?
Oui, par exemple, je vous ai amené des bières tout simplement élevées en barrique. Donc on a des bières élevées en barrique de petits brasseurs de Bourgogne, et puis une bière élevée dans des foudres de chêne, c'est la Rodenbach Grand Cru, qui est en fait c'est une brasserie qui est une des plus fascinantes qui est en Belgique, parce que c'est des foudres de chêne à perte de vue, tellement c'est impressionnant, et c'est tout simplement des bières qui sont, pour d'autres aussi que j'ai amenées, élevées en barrique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ont également des macérations de fruits.
Donc, Elisabeth Pierre, ça foisonne, il y en a trop, mais comment on fait pour les choisir en 7 secondes ?
Alors justement, on va se référer à son goût, chacun son goût. C'est très difficile de pouvoir suivre ce foisonnement, cette effervescence dont je parle. Donc on se retrouve devant des rayons de bière, que ce soit en grande surface ou dans les caves, ou même au bar devant 10, 20, 30 tirages pression. Mettons que le serveur est débordé et puis que le conseiller est occupé, comment
fait-on ? On nous laisse pas goûter, on peut pas dire ouvrez-nous une bouteille de bière, on vous dira si on a pression. On fait comment ? C'est pas marqué sur l'étiquette
de saveur. De plus en plus, par exemple ici, je vous montre cette étiquette, c'est une Berliner Weisse Hibiscus Lim de Flamingo de Hopirot, c'est une brasserie de Lorraine, à 3,2. Donc bière très légère, acide et fruitée. Donc c'est marqué dessus, acide et fruitée.
Au supermarché aussi, c'est marqué dessus sur les
bouteilles
de bière.
Alors les étiquettes, de plus en plus des étiquettes, il y a vraiment un mouvement aussi dans ce sens-là. Les étiquettes sont beaucoup plus détaillées qu'auparavant sur le goût, justement.
Et Elisabeth Pierre, on est dans une société où on veut manger bien, on veut boire bien. Est-ce qu'il y a des bières qui sont de très mauvaise qualité et comment les éliminer ?
Ce qu'on appelle la mauvaise qualité d'une bière, c'est en sommellerie bière, on appelle ça des défauts et des faux goûts. Alors ils sont souvent dus, quand ils ne sont pas dus à des incidents de processus, ils sont souvent dus aux conditions de conservation de la bière, de transport, de stockage, etc. Donc les défauts, il y en a un certain nombre. Ils sont évidemment décelables quand on les connaît. Mais la grande, grande majorité des bières, pour peu qu'on boive les bières houblonnées fraîches et jeunes et les bières élevées en barrique, évidemment, dans de bonnes conditions, ça, il n'y a aucun souci. On a toutes les chances de boire une bière de bonne qualité, justement.
Est-ce que ça peut se conserver, une bière, comme un vin ?
Tout à fait. Les bières élevées en barrique, là, je vous ai amené un barrel wine de la brasserie Page 24. C'est une bière déjà forte en alcool. Donc, à partir du moment où il y a le support de l'alcool, comme le vin, eh bien, la bière va avoir beaucoup plus de possibilités de se garder. Et puis également, très maltée et plutôt avec des maltes foncées, plutôt grillées et foncées. Donc, avec ces critères-là, plus l'élevage en barrique, bien sûr, les bières peuvent se garder très longtemps.
Donc, si je caricature un peu, la bière brune se garde plus longtemps que la bière blonde ?
Alors, ce n'est pas, aussi simple parce que là, pour le coup, je vous ai amené aussi une bière acide. L'acidité des rouges des Flandres ou l'acidité des lambics, ce sont des bières blondes ou des bières rousses ou ambrées. Mmh. Hein, donc là, on n'est pas du tout dans les bières brunes. Et pourtant, elles se gardent 20 ou 30 ans.
Ah oui, donc, j'aurais dit 3 ou 4 ans maximum.
Voilà, 20 ou 30 ans, les lambics, oui, tout à fait.
Et elles seront bien meilleures dans 30 ans, c'est ça ?
Elles sont surtout différentes, elles évoluent. Les bières qui vieillissent, donc qui sont faites pour être vieillies, bien sûr, hein, ce qui n'est pas la grande majorité des bières, hein, entendons-nous. Hein, mais elles ont une raison d'être dans le vieillissement, c'est d'évoluer de façon très intéressante en goût.
Alors, on a plein d'autres questions, Elisabeth Pierre, à vous poser. Comme, une fois qu'on a choisi sa bière, elle accompagne quel genre de mets, quels aliments ? Du fromage, du poisson, de la viande,
Sidonie,
ça me semble un peu bizarre.
Attention, Sidonie a faim, attention.
Attention, l'ogre est là. A tout de suite, les curieux sur RTL.
Moi, je bois de la bière, la maudite bière. Ça me défoule, puis ça me zigouille.
La curiosité est un vilain défaut.
Une boisson universelle. Elle se consomme en flûte, en calice, en ballon, en godet, en lambic ou en chope.
Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter.
RTL.
Bière de supporter ou bière de monastère, la petite mousse n'a pas de frontières.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quand la bière nous est tirée, il faut en profiter.
Quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Tiens, c'est un groupe qui s'appelle Kimo Rucru et qui est originaire de Gaspésie. Donc on voyage jusque cette péninsule au centre du Québec. Et surtout, on a la bière au menu de notre curiosité avec la zytologue, l'experte en bière, on va dire ça, Elisabeth Pierre. On va cuisiner avec la bière. Mais alors ça, déjà, c'est surprenant. Alors vous continuez de manipuler les bouteilles, mais c'est très bien, hein, j'adore, que vous nous avez apporté en échantillon. Est-ce que c'est une bonne idée de faire de la bière l'accompagnement d'un repas, comme on le fait avec le vin ?
Il y a tellement de styles et tellement de goûts de bière, ouais. Donc de saveur, d'acidité, de fruité, d'épicé, d'amertume, de douceur, etc., de puissance. Tous les produits vont bien avec la bière, pour peu qu'ils soient cuisinés, préparés avec la bière qu'on a choisie. Et du coup, avec le plat qu'on a cuisiné, il va falloir choisir la bonne bière.
Bah moi, je vous fais un poisson au four.
Un poisson au four.
Voilà, un bar au four. Je prends quoi comme bière avec ? Alors déjà, maman, elle tombe dans les pommes. Là. Quoi, la bière avec un poisson ?
On est sur un produit qui va magnifiquement bien avec la bière. Tout ce qui vient de la mer, déjà, va très très bien avec la bière. On a une tradition entre la bière et la mer. Un bar grillé, ça va être... Là, on est en été, donc ça va être une bière assez rafraîchissante. Et pourquoi pas celle-ci, d'ailleurs, avec une acidité légèrement citronnée, légèrement agrumée. Une bière de blé, tout simplement. Ce qu'on appelle une Weizen. Ou tout simplement aussi une bière légèrement une pale ale avec un petit peu d'amertume et apportée par les houblons quelques arômes. Donc il y a beaucoup de choix pour un simple plat comme pour le vin. On n'a pas qu'un choix, mais on a plusieurs possibilités, soit le contraste, soit l'équilibre.
Elisabeth Pierre, on apprend plein de choses grâce à vous. Tout à l'heure, vous nous disiez que la première bière a sans doute été consommée en Mésopotamie, ce qu'on appelle le croissant fertile avec la sédentarisation, et qu'au même moment, on a sans doute aussi appris à faire le fromage. Est-ce que bière et fromage, ça se marie bien ?
Ça, c'est mon grand dada. Oui, parce que c'est vrai que on est un pays de fromage et on est un pays de bière. Donc dans toutes les régions, nous avons des familles de fromages emblématiques et nous avons des brasseurs emblématiques de plus en plus. Donc oui, les grandes règles existent bien sûr, mais je dis souvent essayez, achetez plusieurs fromages différents de différentes familles, du comté, de l'époisse, un chèvre, même un Fontainebleau, une burrata et essayez avec plusieurs bières que vous allez acheter chez votre caviste ou dans votre magasin. Faites des tests. Parce que c'est finalement le meilleur moyen de faire les plus belles découvertes. Parce qu'on peut toujours reproduire des accords fantastiques, mais la bière n'est pas toujours la même, et le fromage non plus.
Alors le vôtre, votre accord préféré bière-fromage, c'est lequel ?
Alors en ce moment, par exemple, j'ai un coup de cœur absolu pour les bières vineuses avec le camembert. Donc ça surprend un petit peu parce que c'est vrai qu'on associe plus directement le camembert avec du vin ou même du cidre.
C'est quoi une bière vineuse ?
Une bière vineuse, c'est une bière donc élevée en barrique comme celle-ci, donc dans des foudres de chêne avec de l'acidité. Ça c'est la Rodenbach Grand Cru, donc du coup qui est en fait une bière emblématique de cette caractéristique-là. C'est acétique, donc il y a une acidité, hein, comme une structure de vin, mais au-delà, il y a du boisé, il y a du fruité, il y a le côté fruit noir, et à l'aveugle, ce type de bière, comme celle qui est juste à côté, la Fabule, la Sœur Barrique en grande réserve, elle est celle-ci en fût de Bourbon, donc on est sur des arômes qui vont être complètement différents du coup, hein. Mais ces types de bières-là, à l'aveugle, testées avec des sommeliers de restaurants, on est complètement sur des structures de vin.
Elisabeth Pierre, vous nous avez complètement libéré de la bière. Là, on imagine la boire avec tout et n'importe quoi, peut-être même au petit déjeuner. Non, faut peut-être pas exagérer quand même.
Avec modération, en tout cas.
En tout cas, est-ce qu'elle peut faire partir des cocktails avec la bière ?
Oui, alors tous les pays ont une tradition de cocktails à la bière. Hein, donc, il suffit d'aller dans des bars à cocktails pour les connaître. Ce qui me passionne, c'est la création de cocktails autour de la bière.
Alors, vous en avez créé un.
Alors, je m'amuse à créer des cocktails, bien sûr, pour mon propre plaisir, dans mes axes de recherche, et puis aussi à la demande.
Une recette.
Alors
une
en ce moment là, avec la chaleur qui fait, il faut une bière rafraîchissante, un cocktail rafraîchissant, hein, donc avec de l'acidité et de l'amertume. Mm-hmm. Donc du coup, moi je travaille beaucoup le soda de gingembre, c'est un petit peu mes autres dadas, les boissons fermentées naturelles. Hein. Donc un soda de gingembre avec une base d'ail pilé, du jus de pamplemousse.
De l'ail pilé.
Alors l'ail pilé, donc India Pale Ale, qui est en fait un style de bière houblonnée, très aromatique.
Ah oui,
donc
là, parti, parce qu'on se disait de l'ail.
Avec le monde, on est en train de piler de l'ail là, donc vous nous avez arrêté à temps.
Alors, une idée du coup.
Oui. Ah, très bien, on note.
Donc, voilà. Et l'intérêt du coup, c'est indépendamment de la recette, c'est la construction est sur la base de la bière, et l'intérêt à mon sens de la bière en cocktail, c'est la mousse. Donc l'idée, c'est une expérience à faire, hein, c'est de passer la bière en mixeur et puis d'avoir cette belle mousse au-dessus de votre cocktail.
Merci
beaucoup Elisabeth Pierre, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous accueillir dans la curiosité. Si on veut en apprendre plus sur la bière, on peut aller sur votre site Bierissima qui est dédié aux animations, aux formations que vous proposez. Vous serez au Mondial de la bière à Paris à la fin du mois, et puis sinon, sous le coude, on emporte, choisir et acheter sa bière en 7 secondes, c'est aux éditions Hachette. On a fait tout le magasin là.
Vous écoutez RTL.